Seigneur, merci pour ta parole déjà ce matin. Seigneur, merci parce que tu parles de différentes manières à nos cœurs. Nous te remettons encore notre sœur qui se sentait mal ce matin. Seigneur, te demandons de la bénir, de la garder. Je prie aussi, Seigneur, pour tous ceux qui ne sont pas venus ce matin pour des raisons de santé ou parce que ça n'allait pas. Seigneur, que tu puisses les toucher dans la profondeur. Seigneur, régler les situations personnelles. Seigneur, et les bénir de toute bénédiction qui vient de toi. Amen. Alors, j'aimerais faire la suite un peu de ce qui a été fait il y a 15 jours ou 3 semaines. Sur ce périple, ce cheminement qui amenait le peuple d'Israël, qui était prisonnier en Égypte, en captivité, qui amenait, que Dieu a décidé de ramener en Israël. Et on avait vu que ce peuple était devant le pays et... J'ai plein de notes devant moi, il faut que je m'y ressorte. Et qu'on avait fait un comparatif un petit peu entre ce cheminement, cette arrivée à l'entrée du pays promis et la vie du chrétien lui-même et son cheminement à lui à l'entrée du pays promis. Et ensuite... le passage du Jourdain pour obéir à la parole de l'Éternel qui est de fouler que la promesse donc qui était de que chaque excuse-moi je suis fatigué chaque pas que foulerait les pieds de ceux qui marchaient ce serait ça leur terrain, ce serait ça leur héritage. Donc il fallait marcher, il fallait remporter des victoires, il fallait se battre, il fallait occuper le pays. C'était ce que Dieu voulait et c'était ce qui manifestement faisait plaisir à Dieu. Et on a vu que les choses se sont passées de diverses manières, qu'il y avait là des ennemis dans ce pays, que... au départ, on n'a pas voulu rentrer, n'est-ce pas? Et ensuite, on a dû repartir dans le désert. Une deuxième fois, on s'est présenté devant le pays, on est rentré. Mais là, il y avait des ennemis de toutes sortes. Et le problème d'Israël, c'était la compromission, c'était d'essayer de s'arranger, de faire des partenariats avec les ennemis, n'est-ce pas? Essayer de capitaliser les forces des uns et des autres. On se disait que ça irait mieux comme ça. Et c'était peut-être aussi notre problème, c'est que au lieu d'éliminer les ennemis tels que Dieu l'avait ordonné, eh bien, on faisait ami-ami, parce qu'on se disait, finalement, ça nous rapporte plus. Et c'est très à la mode aujourd'hui, n'est-ce pas, le partenariat. Alors, il y a un ennemi qui... est particulier dans ce pays. Et j'aimerais qu'on se concentre sur lui un peu aujourd'hui. Il s'agit d'Amalek. Amalek était, à l'origine, tout au départ, le petit-fils d'Ésaïe, me semble-t-il. Oui. Et Amalek était présent lorsque Israël est sorti du pays d'Égypte, lorsque Dieu les a fait sortir du pays d'Égypte, alors qu'ils partaient et que l'arrière-garde était fatiguée, que certains traînaient, Amalek s'est précipité sur Israël, s'est précipité sur eux pour les battre, pour les combattre. Et on se rappelle cet épisode où Moïse était les bras levés, soutenus, et tant qu'il avait les bras levés, soutenus, Israël remportait la victoire, et quand il baissait les bras, c'était Amalek. Amalek était un vrai, vrai, vrai problème pour Israël. Dans 1 Samuel, pardon, fatigué. J'ai dit quoi? J'ai dit dans 1 Samuel, pardon. Verset 15. Dieu demande quelque chose à Saül. Saül était le premier roi à devoir s'occuper d'Amalek. Et il lui dit au verset, donc Dieu avait demandé expressément à Saül d'exterminer Amalek, tout bêtement. Il lui avait demandé cela. Amalek était une contrée. C'était une contrée peuplée de, c'était un peu, je sais pas, comme la Picardie, quoi. Enfin, je veux dire, c'était une contrée. Il y avait des gens là-dedans, qu'on appelait les Amalécites, qui vivaient là. Alors pour les situer, est-ce que c'était au sud de la mer Morte, il me semble, hein? C'était en bas de la mer Morte, il y avait une contrée là où il y avait des hordes, des bandes qu'on appelait les Amalécites et qui étaient là avant Israël, bien avant les autres. Et ce peuple, ces gens qui étaient là, Dieu avait demandé expressément à Saül de s'en débarrasser. Et au verset 3, donc, « Ainsi parle l'Éternel des armées, je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à la sortie d'Égypte. » Donc, c'est ce que je vous relatais tout à l'heure. « Va maintenant, frappe Amalek, et dévouez par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point, et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. » Et Saül, donc, a combattu, mais il n'a pas fait entièrement ce que Dieu avait demandé de faire. Et au verset 7, Samuel battit Amalek depuis Avila jusqu'à Chour, qui est en face de l'Égypte. Il prit vivant Agag, roi d'Amalek, et il dévoua par interdit tout le peuple en le passant au fil de l'épée. Mais Saül et le peuple épargnèrent Agag, et les meilleurs brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde portée, les agneaux gras, et tout ce qu'il y avait de bon, ils ne voulurent pas le dévouer par interdit, et ils dévouèrent seulement tout ce qui était méprisable et chétif. On peut faire un comparatif entre Amalek et la chair, ce que la parole de Dieu appelle la chair. Et on le voit dans toute l'histoire, Amalek est une sorte d'épine dans la chair d'Israël. Balaam avait prophétisé. Balak, le roi de Moab, je crois, lui avait demandé de prophétiser contre Israël. Et Balaam avait dit, non, non, pas possible. Pas possible. Mais tout à la fin, quand même, il a dit, Amalek est la première des nations. Mais, a-t-il ajouté, finalement, elle sera détruite. Amalek est la première des nations. Mais elle sera détruite. La chair est la première des choses existantes dans l'homme, mais finalement, elle sera détruite. Amalek était sans arrêt en train de titiller Israël lorsque il semait, eh bien, les Amalécites avec d'autres venaient, détruisaient les récoltes. Ils pillaient tout et ils venaient, il est dit, aussi nombreux que des sauterelles pour piller Israël. Mais ces choses-là arrivaient toujours parce qu'il y avait de la désobéissance. C'était toujours parce que une ouverture était prévue, une ouverture était permise, une ouverture était, une brèche était faite dans la protection que Dieu donnait à Israël. Dieu avait dit, moi je protégerai mon peuple. Je ne le laisserai pas. Je le protégerai sans arrêt, sans arrêt. Mais, chaque fois qu'il y avait de la désobéissance, il y avait une brèche ouverte et Amalek remportait des victoires. Alors, normalement, on doit voir ça dans Juges. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Verset 1. Et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël pour échapper à Madian. Les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient et ils marchaient contre lui. Ils campaient en face de lui, détruisaient les productions du pays jusque vers Gaza et ne laissaient en Israël ni vivres, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager. Israël fut très malheureux à cause de Madian, et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. N'est-ce pas, lorsque Dieu nous a donné une promesse, ce pays, cet héritage, cette vie éternelle, cette nouvelle vie, il nous a également promis sa bénédiction et il nous a également promis sa protection. Et le sang de Jésus nous protège. Mais nos attitudes et la place que nous donnons à la chair, c'est-à-dire à ceux qui étaient présents avant l'Esprit de Dieu, et qui doit être, selon l'apôtre Paul, crucifié. Vous avez crucifié la chair avec ses passions, ses désirs et ses passions. Si nous laissons cela prendre le dessus, eh bien, l'œuvre de Dieu est annulée pour le temps de la désobéissance. Et nous ouvrons des brèches aux malins pour remporter des victoires dans notre vie quotidienne. On va me dire, mais ça c'est d'extrapolation, n'est-ce pas? Mais je crois à la parole de Dieu qui dit que certaines des choses de l'Ancien Testament sont l'ombre des choses à venir et qu'elles sont comme un miroir et que c'est au travers de cela qu'il faut les comprendre. N'est-ce pas? Ça peut donner beaucoup d'explications aux choses. Dans Romains, L'apôtre Paul nous parle un peu de cela, beaucoup même. Romains 8 au verset 7. On va commencer au verset 5. « Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. » Je vais répéter ça. « Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. » La paix. Combien d'entre nous souhaitons avoir la paix? Et on cherche des artifices, des subterfuges, des endroits où on pense que c'est mieux et que là-bas, on aura la paix. Or, la réponse, elle est là. L'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Ce qui est formidable avec l'apôtre Paul, c'est qu'il est très clair, des fois trop clair. On aimerait qu'il soit plus flou. Ça nous laisserait plus de marge, n'est-ce pas? Mais il n'est pas flou. Il est comme le Seigneur lui-même. Un oui est un oui, un non est un non. Elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et elle ne le peut même pas. Ça me fait penser à quelque chose lorsque Amalek a attaqué Israël dans Exode. Il faut que je le retrouve. C'est pas celui-là. Mais il est dit à un autre endroit, je ne sais pas si c'est peut-être Deutéronome, que Amalek attaqua Israël sans aucune crainte de Dieu. Il faudrait le retrouver, ce serait bien. Alors, est-ce que nombre. Non, c'est pas là. Voilà, Deutéronome 25 au verset 17. Souviens-toi de ce que te fit Amalek. Pendant la route, lors de votre sortie d'Égypte, comment il te rencontra dans le chemin? Et sans aucune crainte de Dieu tomba sur toi par derrière, sur tous ceux qui se traînaient les derniers, pendant que tu étais las, épuisé toi-même. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, après t'avoir délivré de tous les ennemis qui t'entourent, t'accordera du repos. Sans aucune crainte de Dieu. l'affection. Elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. La chair est effrontée. Elle n'a peur de rien. Elle n'a peur de rien. Elle nous colle à la peau, c'est le cas de le dire. Elle nous connaît si bien. Elle était présente bien avant le Saint-Esprit. Elle nous connaît bien. Elle a grandi avec nous. Elle a été présente dans tous nos moments. Les moments intimes, les moments publics. Elle connaît tout de nous. Mais Dieu avait dit à Saül, « Je veux que tu extermines ce peuple. » Saül ne l'a pas fait. Il a gardé le meilleur d'Amalek. Et ça, je vous parie tout ce que vous voulez, c'est l'attitude du plus grand nombre d'entre nous, au moins dans les premières années de notre vie chrétienne. Nous pensons qu'il y a des choses bien en nous. Nous pensons que nous avons des capacités et que celles-ci, il faut surtout les conserver, parce qu'avec cela, on va pouvoir être très efficace pour le Seigneur. Nous pensons que telle personne, lorsqu'il est un bon orateur, un homme politique, je ne sais pas, eh bien, il fera aussi un bon prédicateur. Nous pensons que lorsqu'il est un bon représentant de commerce, il sera aussi un bon évangéliste. Des fois, ça arrive. Moody était vendeur de chaussures. Mais nous pensons cela. C'est très commun. Je l'ai dit moi-même, je l'ai pensé moi-même, à ma grande honte. Il y a dans l'homme, il y a dans la chair, il y a dans ce qui était présent avant que l'Esprit de Dieu ne vienne, il n'y a rien. Rien, et encore rien que l'on puisse conserver. Je sais que ça peut nous faire grincer des dents, mais Saül a eu comme devoir. Et ce qui distingue, un des éléments essentiels qui distingue Saül de David, c'est bien cela également. C'est qu'alors que Saül était en train de pourchasser David, David, lui, était en train de se battre contre les hordes d'Amalécite, alors qu'il n'était pas encore roi officiellement. David avait compris que ce qui plaisait à Dieu, c'était d'exterminer Amalek. Saül n'avait pas compris cela. Il avait interprété la parole de Dieu à sa façon. Dieu lui avait dit de dévouer par interdit. Il l'a fait. Mais il n'est pas allé au bout des choses. Il a pensé qu'en gardant la crème, il allait faire un partenariat du tonnerre qui allait lui rapporter beaucoup de choses. Et ça lui a rapporté quelque chose. C'est ça qui a fait dire que désormais, il n'était plus roi. Est-ce que nous allons laisser les choses dans cet ordre-là? Est-ce que nous allons conserver ces choses? Nous allons conserver la crème au risque de perdre notre héritage, notre couronne? Ou est-ce que nous allons extirper cela aussi? Est-ce que nous allons exterminer cela aussi? La vie chrétienne, c'est une vie de progression. C'est une vie où on est offensif, parfois défensif, parfois offensif. Mais dans ce cas, il faut se battre non pas contre des choses dont on aurait repéré que ce sont des choses de la chair, mais il faut crucifier la chair avec ses passions. C'est-à-dire qu'il faut, comme il est dit aussi, considérer ces choses-là comme mortes, ces choses-là comme inutiles. Que l'on marche dessus, que les considère comme interdites, comme impures, qu'on arrête de cajoler ces choses et de les préserver comme des trésors. Dieu a demandé que tout soit dévoué par interdit, que tout soit exterminé. Dans Colossiens, l'apôtre Paul nous le dit. Colossiens, chapitre 3. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en bas. Pardon, d'en haut. J'ai dérapé. Et non à celles qui sont sur la terre. Le problème, c'est qu'on a ces choses-là dans les oreilles, comme un écho permanent. Et on les connaît maintenant, ces versets. Alors parfois, il faut créer un événement pour que ça revienne comme quelque chose de neuf. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts! Et votre vie est cachée avec Christ, en Dieu. Quand Christ, notre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. L'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité, qui est une idolâtrie. L'idolâtrie, c'est terrible face à Dieu. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère. Est-ce qu'on se met encore en colère? À l'animosité, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes, malhonnêtes, qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas. Non, même pas un tout petit mensonge. Ce serait intéressant de faire une étude sur le mensonge. Ne mentez pas les uns aux autres. Vous êtes une attitude qui est fausse face à quelqu'un. C'est un mensonge. De se présenter d'une certaine manière, alors qu'à l'intérieur, c'est tout à fait différent, on n'a même pas besoin d'ouvrir la bouche. Nous sommes menteurs. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Quel passage merveilleux. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Dévouez-les par interdit. Faites-les mourir. Faites-les mourir. Ne les gardez pas. Faites-les mourir. Comment je fais ? Fais-les mourir. Par la foi. Dans la vie de l'esprit. Une fois que nous avons avancé un peu dans le pays, il y a une première bataille qui est Jéricho, qui est remportée glorieusement. Le combat, rien de plus facile. On tourne autour, pouf, ça tombe tout seul. C'est merveilleux, n'est-ce pas ? Il y a beaucoup d'armées qui aimeraient pouvoir en dire autant. On a juste à tourner autour et ça tombe. Pas de victimes, sauf ceux qui sont dedans, évidemment, puisqu'après... Mais chez nous, pas de victimes. Et on continue. Donc nous sommes dans Josué. Et alors, évidemment, nous avons une deuxième attaque qui porte bien son nom, n'est-ce pas ? Aïe ! Et là aussi, c'est un rappel, n'est-ce pas ? On a entendu ça souvent. Mais je le répète parce que ça nous concerne. Au chapitre 7, et ça commence comme ça. Les défaites commencent presque toujours comme cela. Les enfants d'Israël commirent une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. Ils ont examiné la situation et ils ont dit à Josué, oh, on n'a pas besoin de se fatiguer, hein. Ils sont pas nombreux, donc 3000 hommes suffiront pour exterminer les gens de cette ville. Ils se sont attaqués à la ville. Et ils ont perdu. Ils ont perdu parce que Dieu n'était pas présent. Dieu avait dit, je ne serai pas avec vous dans ce combat. Et nous avons des combats qui sont très rudes parfois. Et je me demande si nous ne cherchons pas la difficulté. Je me demande si l'obéissance est présente. Je me demande à moi, je me demande à vous. Est-ce que nous sommes dans la situation de Jéricho ? Est-ce que nous sommes dans la situation de Haï ? Est-ce que nous avons omis quelque chose ? Est-ce que nous faisons partie, à cet instant, des fils de la rébellion ? De ceux qui sont connus de Dieu ? Mais pour lesquels Dieu ne combat pas à l'instant, parce qu'il y a de la désobéissance. S'il y avait un thème qui m'exaspérait lorsque j'étais jeune converti, c'était bien celui de l'obéissance et de la désobéissance. Et si c'est votre cas aujourd'hui, je suis persuadé que pour les uns ou les autres, c'est le cas. Si vous sentez en vous cet énervement lié à ce thème, alors c'est que vous êtes sur le bon chemin. C'est que le Seigneur est en train de vous parler à votre cœur. Et je souhaite que cela porte du fruit, parce que c'est important. L'obéissance, la soumission, la capacité à se courber devant Dieu et devant les hommes. Quelle gloire! Quelle gloire d'être rendu capable de se courber. Non pas de perdre sa dignité, il ne s'agit pas de ça, mais de se courber devant les hommes parce qu'on sait que c'est devant Dieu qu'on se courbe. Quelle gloire! N'est-ce pas, il y a des brèches qui sont ouvertes. Et dans ces brèches, il y a des renards qui s'infiltrent. On le voit dans Néhémie, Ézéchiel en parle, Lamentation en parle. Je vais juste vous lire Ézéchiel 13. Les renards, c'est l'image des faux prophètes. Ça peut aussi être avec les animaux, l'image du malin, en tout cas de démon, qui viendrait pour profiter de la brèche, pour entrer dans la brèche et pour détruire. Parce que c'est cela que les renards faisaient, n'est-ce pas? Dès qu'il y avait un trou, ils y allaient et tout ce qui était déjà fragile allait s'écrouler. Les renards étaient vus comme ça dans la parole. Ézéchiel 13 au verset 4. Donc là, ça concerne les prophètes. « Tels des renards au milieu des ruines, tels sont tes prophètes, ô Israël. » Concerne les prédicateurs, ça. « Vous n'êtes pas montés devant les brèches. Vous n'avez pas entouré d'un mur la maison d'Israël pour demeurer ferme dans le combat au jour de l'Éternel. Leurs visions sont vaines et leurs oracles menteurs. Ils disent « L'Éternel a dit !» Et l'Éternel ne les a point envoyés. Et ils font espérer que leur parole s'accomplira. Les visions que vous avez ne sont-elles pas vaines? Et les oracles que vous prononcez ne sont-ils pas menteurs? Vous dites, l'Éternel a dit, je n'ai point parlé. Est-ce que vous avez déjà été dans des endroits où on a prophétisé des choses et ça s'est jamais passé? On a dit à quelqu'un, tu seras guéri. Ça s'est jamais passé. Des gens qui ont usé de persuasion pour vous faire croire des choses, espérer des choses, et ça ne s'est jamais passé. Qui parlait au nom de Dieu. Vous savez, quand c'était Erlo Stegen qui disait ça, qui a connu un réveil avec les Zoulous, qui le connaît encore, qui disait, lorsqu'un homme prêche la parole sans l'Esprit de Dieu, ça endurcit les cœurs. Ça endurcit les cœurs. Et lorsqu'un homme prêchait, prophétisait, c'est assez similaire, n'est-ce pas, annonce les oracles de Dieu, sans l'Esprit de Dieu, ça détruit la foi. Ça détruit la foi. Ça ne veut pas dire que les gens vont partir, parce qu'il y a d'autres moyens de les conserver, n'est-ce pas? Mais ça détruit le cœur même de leur foi. On va s'attacher à plein de choses extérieures. Aujourd'hui, l'Église, c'est quoi? C'est juste... Dans ce qui nous est proposé, on a l'impression d'un grand supermarché de choses, où on peut se servir. Là-bas, c'est comme ça, c'est plus charismatique. Là-bas, c'est moins charismatique. Là-bas, c'est plus profond. Là-bas, c'est plus large. Là-bas, c'est moins large. Là-bas, ça bouge plus. Là-bas, c'est jeune. Là-bas, c'est le samedi soir et le dimanche matin. Mais qu'est-ce que ça a à faire avec le cœur de la foi? Moi, on peut me dire ce qu'on veut sur l'Église. Est-ce que l'endroit où on va le dimanche matin et dans la semaine, ça me change à l'intérieur? Je dis pas est-ce que ça me touche. Je dis est-ce que ça me change. On peut toucher de différentes manières, mais est-ce que ça me change? On retourne dans Samuel. Je vais même pas arriver à terminer cette fois-ci, mais je vous ferai grâce. Il n'y aura pas de troisième. L'essentiel a été dit. Mais c'est intéressant de voir comment l'Ancien Testament nous parle du Nouveau Testament. Comment l'ancienne vie nous parle de la nouvelle vie. À force de faire des alliances avec la chair, à force de se compromettre et de ne pas éradiquer, de ne pas enlever ce que le Seigneur veut que nous enlevions. Alors il se passe ce qui s'est passé à Samuel, à Saül, décidément. Verset 4, c'est donc la bataille contre Amalek. Et des gens viennent voir David. Le peuple s'est enfui du champ de bataille et un grand nombre d'hommes sont tombés et ont péri. Saül même et Jonathan son fils sont morts. David dit au jeune homme qui lui apportait ces nouvelles. Comment sais-tu que Saül et Jonathan son fils sont morts? Et le jeune homme qui lui apportait ces nouvelles répondit, « Je me trouvais sur la montagne de Gilboa, et voici Saül s'appuyait sur sa lance, et voici les chars et les cavaliers étaient prêts à l'atteindre. S'étant retourné, il m'aperçut et m'appela. Je dis, « Me voici. » Et il me dit, « Qui es-tu ? » Je lui répondis, « Je suis Amalécite. » Intéressant. Et il dit, approche donc, donne-moi la mort, car je suis pris de vertige. Quoique encore plein de vie, je m'approchais de lui et je lui donnais la mort, sachant bien qu'il ne survivrait pas à sa défaite. Je le connais si bien. Je le connais si bien, il ne survivra pas, il ne supportera pas sa défaite. Je vais l'aider. J'ai enlevé le diadème qui était sur sa tête et le bracelet qu'il avait au bras. Et je les apporte ici à mon Seigneur. Et David le remercia chaleureusement et dit, enfin, je suis débarrassé de Saül. Qui m'empoisonnait la vie depuis si longtemps? Verset 13, David dit au jeune homme qui lui avait apporté ces nouvelles, « D'où es-tu ? » Il répondit, « Je suis le fils d'un étranger, d'un Amalécite. » David lui dit, « Comment n'as-tu pas craint de porter la main sur loin de l'Éternel et de lui donner la mort ?» Et David appela l'un de ses gens et dit, « Approche et tue-le. » Cet homme frappa l'Amalécite qui mourut. Et David lui dit, « Que ton sang retombe sur ta tête, car ta bouche a déposé contre toi, puisque tu as dit, j'ai donné la mort à loin de l'Éternel. » Lorsqu'on a omis d'éradiquer la chair, lorsqu'on a omis de crucifier la chair avec ses passions, j'ai dit au début, Amalek est la première nation, mais elle est vouée à disparaître. Eh bien, lorsqu'on a omis d'éradiquer la chair, on est voué à disparaître avec elle. Il n'y a que cela. Dans l'esprit ou hors de l'esprit. Les affections de l'esprit, les affections de la chair. Saül s'était compromis sans arrêt avec la chair. Et c'est la chair qui l'a mise à mort. Et il n'y a pas de doute qu'il en sera de même pour nous. Nous ne viendrons pas à bout de la chair sans la puissance de l'Esprit de Dieu à l'œuvre dans nos vies. Nous pouvons nous battre toute notre vie contre des moulins à vent. Toute notre vie. Il n'y a que la puissance de l'Esprit de Dieu qui peut réduire à néant les œuvres de la chair. Mais c'est de notre part une attitude offensive, une attitude volontaire qui est de dire « Je refuse ces choses-là, même les meilleures. Je les refuse dans le nom de Jésus et je vis désormais selon la vie de l'Esprit. » N'est-ce pas? Des gens remplis de talent, il y en a eu plein. Les missionnaires qui partent parfois dans des endroits reculés dont personne n'entend parler sont des gens souvent avec des capacités extraordinaires, des capacités personnelles extraordinaires. Oswald Chambers, qui est mort si jeune, était un homme tellement capable. Nous n'avons rien à apporter à Dieu. Nous n'avons rien que nous puissions donner à Dieu pour dire « on va t'aider avec ça ». Au final, il est évident que si nous sommes submergés, si nous sommes allés trop loin dans ces choses, si nous avons laissé trop de place à Amalek dans notre vie, alors nous avons besoin de quelqu'un. Nous avons besoin d'une protection. Israël a connu la protection, parce que c'est pas contre Satan que nous avons besoin de protection, c'est contre Dieu. C'est pour éviter la destruction que Dieu va accomplir, parce que Abraham a dû plaider pour Israël. Moïse a dû plaider pour Israël. Parce que Dieu était en colère. Et cette attitude, c'est la colère de Dieu, je vous l'ai lu, qui s'enflamme contre son peuple. Ce n'est pas autre chose. Et nous avons besoin de quelqu'un qui se tient à la brèche qui a été ouverte. Quelqu'un qui fait obstacle de son corps. C'est là que Jésus est venu pour nous. C'est là que nous pouvons compter sur lui en tant qu'avocat qui plaide auprès du Père pour nous. Et c'est là que nous pouvons tout remettre. Tous les compteurs peuvent être remis à zéro. Vous croyez cela? Vous croyez que si on est allé trop loin, on peut remettre tous les compteurs à zéro et que Dieu ne se rappelle pas notre passé misérable, même si nous avons déjà dit oui au Seigneur. Vous croyez que on peut recommencer? Dieu ne tient pas une comptabilité des choses terribles que nous avons faites à partir du moment où il vient pour nous purifier. Oh, il sait! Mais il nous autorise à ne pas y penser, à ne plus nous en rappeler. Par contre, il nous demande de nous rappeler d'Amalek. Souviens-toi d'Amalek et de ce qu'il te fit lorsque tu es sorti du pays d'Égypte. Je vais m'arrêter là. Seigneur, merci pour ta parole qui est claire. Merci Seigneur parce que nous pouvons nous reposer dessus et avec certitude avancer sur du terrain ferme. Nous pouvons comprendre les choses pour notre vie et Seigneur nous savons aussi ce qu'il faut faire pour que notre vie change. Seigneur, nous voulons nous soumettre à toi ce matin et dans l'obéissance, Seigneur, te dire que nous sommes d'accord pour que, Seigneur, tu agisses à l'intérieur de nous. Seigneur, que nous voulons laisser de côté toute notre propre force, toute notre propre justice, tout ce que nous voulons amener devant toi et faire valoir, Seigneur, nous voulons le laisser à tes pieds. Et nous voulons te demander, ô Dieu, que tu sois celui qui vienne pour nous changer à l'intérieur. Que nous ne soyons pas juste touchés par ta parole, mais que nous soyons transformés. Que la vie ne soit pas juste un mirage, mais une réalité vécue quotidiennement. Ô Dieu, je prie pour que tu répondes aux désirs intimes des cœurs, Seigneur, de ceux qui sont là, présents, et de ceux qui sont chez eux et qui crient après toi. Dans le nom de Jésus. Amen.